Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre. Chaque après-midi, l'histoire sans se la raconter, à la rencontre de personnages hauts en couleur, au destin fascinant, des hommes et des femmes issus de tous les milieux, puisqu'ici avec Stéphane, on a croisé des personnages qui étaient ouvriers, princes, médecins, comédiens, psychologues, royalistes, républicains, communards.
Pire, communistes.
Oui, même des communistes, c'est dire si pour célébrer l'éclectisme de cette émission, vous êtes prêts à toutes les concessions. Bonjour Stéphane Bern.
Oui, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Je n'ai rien contre les communistes personnellement, mais nous ne risquons pas d'en croiser beaucoup cet après-midi non. Parce que nous prenons la direction de la Côte d'Azur. Aujourd'hui, la Riviera les fait rêver, ils font rêver la Riviera. C'est notre thème ensoleillé, la rencontre, non pas trois, mais quatre personnages. A commencer par un couple, les Américains Sarah et Gerald Murphy, qui furent les premiers à passer leurs étés durant les années folles sous le soleil de la Méditerranée, avant d'être rejoints par de nombreux amis heureux, vous verrez. Puis je vous raconte celui qui est arrivé bien avant, en 1834, un lord anglais, Henry Broome, a découvert par hasard un petit village de pêcheurs proche de la frontière italienne où il devait se rendre. C'était Cannes. Cannes avant le festival. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un acteur hollywoodien qui devrait lui aussi devenir propriétaire sur la Côte d'Azur.
Oui, il devrait acquérir une sublime propriété à Brignoles dans le Var, la presse l'a annoncé, mais voilà, Georges Clounet a un petit pépin. L'avocat d'un autre acquéreur s'oppose à la vente car la villa aurait déjà été achetée par son client. Comme quoi Stéphane, et c'est une leçon pour les communistes, même les méga-riches ont des problèmes. Oh, des problèmes de méga-riches, certes, parce qu'il est évident que même sans cette villa, comme il lui reste le lac de Côme, Georges ne va pas finir au pire des vacances de la Bourboule, mais des problèmes quand même.
Avec eux, voyez-vous Mathieu, pas de problème, seulement des solutions. Ce sont nos merveilleux chroniqueurs dont les chroniques ont un air de vacances aujourd'hui. Elles nous entraînent dans l'intimité des grandes ce monde. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour à tous. Et oui, mais moi aussi, je veux aller sur la Riviera. Alors je vous y suis avec nos présidents de la République. Parce que je suppose que comme tout le monde, chaque année, quand notre président troque son costume cravate contre un short et une paire de chaussures bateau, vous vous interrogez. Est-il bien raisonnable que notre président parte en vacances? Où va-t-il se rendre? Combien de temps va-t-il y rester? Voilà, alors c'est à toutes ces questions que répond le livre « L'Élysée à la plage » que j'ai lu pour vous.
Stéphane, vous êtes déjà allé à Brégançon?
Oui, ça m'est arrivé.
Ah oui, comment comptez sur moi pour le mentionner?
Très très bien.
Oui, enfin ça va.
Bon, ben, vous êtes dans le bouquin en tout cas, faites
c'est
pas le faux
fort,
modeste. Hein.
Voyez,
oui, c'est un fort, avec un président dedans.
Pas très confortable. Mais je ne suis pas allé avec le président que vous croyez.
Ah bon? Et non. Avec un autre président?
Oui. Oui.
Oh, décidément, vous êtes
Paul Deschanel.
Non, c'est un président qui lui a prêté son maillot de bain.
Ah oui, Nicolas Sarkozy, je sens que l'anecdote, je connais cette anecdote. Oui. David Castello-Lopez, c'est l'impertinent que vous venez d'entendre, qui a signalé que Stéphane n'était plus tout jeune. David, chaque jour, vous remontez aux origines pour nous, aux origines d'une invention.
Oui, 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 tout à fait. Et aujourd'hui, je vais vous parler du tire-bouchon. Voilà.
L'invention qui a changé
la vie d'Olivier Poul.
C'est vrai. Vous êtes d'une naïveté qui est à fond de
pour quelle raison?
Mais pour la raison
qu'avant, je n'arrivais pas à ouvrir les bouteilles. J'étais comme un con.
Pour préciser, nos auditeurs qui vous connaissent, Olivier, avant tout comme un homme de gastronomie, vous êtes aussi avant tout, avant d'être un gastronome, vous êtes surtout, vous travaillez pour la revue de Vin de France et on peut dire que vous notez les vins.
Donc ça, il en a ouvert des bouteilles.
Ça, c'est sûr.
Et toute ma chronique sera placée sous votre contrôle. En fait. Je parlerai uniquement sous votre contrôle.
Vous en avez apporté, parce que je peux trouver la bouteille qui va
j'ai
vous permettre
apporté un tire-bouchon.
De...
Ouais. Ah, sans bouteille,
je vous trouve la bouteille d'ici tout à l'heure, je vous garantis.
Mais toujours avec modération, super. Évidemment. Voilà. Dites-moi Olivier, aujourd'hui vous restez sur la Côte d'Azur, vous aussi.
Oui. Eh bien, moi je vais vous parler de la tropézienne, cette pâtisserie délicieuse.
C'est tarte. Il faut quand même s'arrêter là-dessus un instant. David Castello-Lopez vient de nous dire, j'adore ça. David qui mange, il faut dire, du chou-fleur, des graines, puisqu'il fait attention à ce qu'il mange. Vous savez combien il y a de calories dans la tarte tropézienne?
C'est la quantité. Il faut manger un petit peu
de tropézienne. Non,
manger une miette de tarte tropézienne, ça n'a pas de sens.
Et vous préférez ne pas manger du tout de tropézienne plutôt que manger un petit peu de tropézienne?
Oui, oui, oui.
Je ne vous laisserai pas.
Je le dis, c'est comme ça.
Je préfère rien manger que manger un bout de...
Bien sûr, Stéphane, vous avez raison. Enfin, les amis, aux alentours de 5h-10, ce sera qui tout double pour Stéphane? Ressortira-t-il de notre quiz Burn to be Alive dépité comme souvent ou bien au contraire, comme ça lui arrive parfois, pérorant comme un paon à la saison des amours après une victoire de raccro.
Oh, merci, je vous aime, mes followers.
Calmez-vous, nous verrons ça. Mais d'abord, découvrons notre premier couple fasciné par la Côte d'Azur. Stéphane Bern nous transporte à Antibes pendant les années folles à la rencontre de Sarah et Gérald Murphy.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Pour Stéphane Bern, la Riviera, c'est l'endroit rêvé où il se plaît à aller retrouver chaque été son ami Massimo Gargia. Oh. Quels effets merveilleux vous devez passer. Mais avant lui, avant eux, il y a 100 ans déjà, pendant les années folles, un couple d'Américains enflammait la Côte d'Azur. Stéphane Bern nous raconte Gérald et Sarah Murphy qui ont rêvé et fait rêver la French Riviera.
Nous sommes à l'été 1925 sur le rivage désert du Cap d'Antibes. Un étrange spectacle interpelle les rares habitants restés dans le sud malgré des températures caniculaires. Qui sont donc ces hommes et femmes, tout au plus 7 ou 8, qui passent leur journée sur la minuscule plage de la Garoupe ? Certains sont installés sous des parasols rayés bleu et blanc. D'autres s'enduisent d'huile solaire, d'autres encore se rafraîchissent en nageant dans l'eau turquoise. Des enfants jouent dans des canoës. Tous se délectent de petits encas salés et se régalent des délicieux cocktails préparés par Sarah Murphy et son mari Gérald. Car il s'agit bien du couple Murphy, de leurs 3 enfants et de célèbres amis, parmi lesquels on trouve le peintre Pablo Picasso ou la femme de lettres Gertrude Stein. Chaque été, ils trouvent refuge ici, dans ce petit coin de paradis encore intact, qui deviendra dans quelques temps l'incontournable, l'ostentatoire French Riviera. Gérald et Sarah Murphy sont de riches Américains amateurs d'art. Après la Première Guerre mondiale, le couple fuit la puritaine Amérique. En pleine prohibition aux États-Unis, ils préfèrent de loin s'abreuver de champagne et de culture dans une France qui revit. Les années folles battent leur plein dans la capitale française, mais pas seulement. Installés à Paris, les Murphy découvrent le sud de la France durant l'été 1922. Cole Porter, en deux mots, un ancien camarade de Gérald à l'université de Yale, les accueille à Antibes. Pour la famille et surtout pour Sarah et Gérald, c'est plus qu'une découverte, c'est un véritable coup de foudre. Quand nous sommes allés visiter Cole, il faisait chaud mais l'air était sec et il faisait frais le soir et l'eau était de cette merveilleuse couleur de jade et d'améthyste, écrira plus tard Gérald. Aujourd'hui, rien d'étonnant à ce que des familles descendent sur la côte pour les vacances d'été. Mais en 1920, il faut se rappeler quand même, les Murphy passent pour des illuminés. Car au début du siècle dernier, quand en mai et juin, les températures dépassent rapidement les 35 degrés, les riches propriétaires installés long de la Méditerranée mettent les voiles. Russes, Américains, Allemands filent à l'anglaise. Adieu la canicule de Cannes, Jean-Lépin ou Nice. Bonjour l'air vivifiant de Deauville, Trouville ou Houlgat. Tout ce petit monde débarque en Normandie, dans ses hôtels ombragés, ses casinos fraîchement inaugurés. Ils sont rentiers, nobles ou patrons d'entreprises florissantes. Et pour cette élite, hors de question de prendre le soleil. Être bronzé, jusqu'alors, c'est signe de pauvreté. C'est réservé aux travailleurs, aux agriculteurs, qui eux ont la peau rougie par le soleil. Les riches, eux, gardent leur peau diaphane. Sarah et Gérald Murphy pensent différemment. Les deux étés qui suivent, ils ne s'imaginent plus ailleurs qu'à Antibes. Mais ils rencontrent un premier problème. Où peuvent-ils loger ? Durant la saison estivale, les hôteliers imitent les habitants et désertent la région. Ils ferment leurs établissements et s'occupent d'autres hôtels, dans des villes au climat plus clément. Mais les Murphy savent se montrer convaincants. Ils persuadent le directeur du Grand Hôtel du Cap, futur Eden Rock, de garder quelques chambres ouvertes. Le propriétaire accepte de mettre à leur disposition un cuisinier, un serveur et une femme de chambre. On raconte même que Sarah et Gérald débarquent à l'hôtel avec 2 vaches pour être certains d'avoir du lait à donner à leurs enfants. Désormais confortablement installés, les Murphy peuvent vivre au rythme des cigales, du clapotis de l'eau et des douces soirées d'été. Mais là encore, ces précurseurs dans l'art de lézarder au soleil doivent relever un nouveau défi. Car le rivage est encore à l'état sauvage. Personne avant les Murphy, ou presque, n'avait eu l'idée de venir farniente face à la mer. Qu'à cela ne tienne, la famille se retrousse les manches et décide d'aménager un minuscule lopin de plage dont ils sont tombés amoureux. Tout au bout du cap, la plage de la Garoupe deviendra leur point de rendez-vous quotidien avec leurs amis. Alors, Chaque jour, Gérald, Sarah et leurs trois enfants arpentent les 40 mètres de la plage. Ils enlèvent méticuleusement les algues épaisses, les galets par milliers qui recouvrent le sable. Gérald s'en est confié à une journaliste. À cette époque, personne ne s'approchait de la Côte d'Azur en été. Nous avons creusé un coin de la plage, nous sommes baignés là-bas et nous sommes assis au soleil et nous avons décidé que c'était là que nous voulions être. Les Murphy sont bientôt rejoints par de proches amis. Picasso, sa femme Olga, les Hemingway, les Fitzgerald, Jean Cocteau, Stravinsky ou encore le peintre Fernand Léger. Quel tableau cocasse de voir ces hommes et ces femmes appartenant pourtant à la haute société, tous en tenue de baignade, Sarah en collier de perles et les hommes torse nu s'amusant comme des gamins sur la plage. Stéphanie Desors, dans son livre « Les heureux du monde », relate l'ambiance hédoniste qui règne sur la plage autour du couple Murphy à cette époque. Gérald invente de nouveaux cocktails chaque jour. Ils ont bientôt tous le dos brûlé. Sarah étreint un kimono audacieux, bleu de Prusse et vert émeraude. Paul Poiret, certainement. Les Murphy, sans s'en rendre compte, lancent une mode. Et dès 1925, ce sont leurs inimitables fêtes qui les propulsent comme les ambassadeurs éternels de la French Riviera.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
La Riviera les fait rêver, ils font rêver la Riviera. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi, direction la Côte d'Azur, il y a tout juste 100 ans, où des pionniers, les riches américains Sarah et Gerald Murphy, venaient y passer l'été au moment où, en raison des fortes chaleurs, les autochtones aisés désertaient plutôt la région. Eux, au contraire, ont fait venir du monde, du beau monde, et on vous le disait, Stéphane, organisé quelques fêtes assez mémorables.
Sarah et Gerald ne s'imaginent pas être de simples touristes de passage chaque été sur la côte. Ils veulent appartenir à cette région qui les a accueillis et s'y implanter durablement. Ils achètent donc un chalet au Cap d'Antibes qu'ils ont fait rénover en grande partie. Après 2 ans de travaux, la Villa America, c'est son nom, sort de terre. Sarah et Gérald ont remplacé le toit du chalet en pointe par un toit ouvrant plat. L'un des premiers toits ouvrants d'ailleurs jamais vus sur la Côte d'Azur. Mais surtout, la villa dispose d'un jardin d'une diversité infinie. Plantes exotiques, palmiers, dattiers, érables d'Arabie, citronniers. C'est un jardin d'Éden que les Murphy cultivent avec soin. Ces Américains ont conscience de la chance qu'ils ont d'habiter loin de la bigoterie qui se propage aux États-Unis. Ils veulent partager cette joie de vivre avec leurs plus proches amis. Ils organisent donc tout l'été de somptueuses soirées dans leur villa. Des repas servis sur la terrasse, autour d'un immense tilleul argenté, des cocktails à foison, l'ambiance est décontractée à l'image des maîtres de maison. Gérald, cultivé jovial, Sarah piquante et attentionnée. L'écrivain John Dos Passos a décrit ses soirées d'été passées dans le jardin parfumé des Murphy. Ils dépensaient leur argent avec élégance et profusion. Personne n'organisait de soirées plus amusantes. Mais plus les années passent, moins Sarah et Gérald ne parviennent à retrouver l'âme originelle de la Riviera. Fini la quiétude des premières années. Désormais, les touristes affluent en nombre dans la région. Les hôtels sont complets de juin à septembre. Le Grand Hôtel du Cap compte désormais pas moins de 33 cabanes pour que de riches clients prennent le soleil. Et surtout, Patrick, l'un des enfants Murphy, contracte la tuberculose. Sarah et Gérald se dévouent corps et âme pour tenter de le faire soigner. Ils l'emmènent en Suisse, dans un sanatorium, en 1929. Si l'année est noire pour les Murphy, elle est aussi évidemment pour les États-Unis. Le krach boursier oblige Gérald à revenir en Amérique pour travailler dans l'entreprise familiale en espérant éviter la faillite. Sarah et Gérald perdent successivement leurs 2 fils âgés de 16 ans. La fête est finie. Les Murphy ne reviendront jamais sur la Riviera. Premiers arrivés, premiers partis. Mais ils resteront à jamais sur le papier en étant ceux qui ont inspiré les personnages du roman de leur ami Fitzgerald, Tendre est la nuit.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler du couple qui a fait rêver la Riviera, Sarah et Gérald Murphy, nous sommes avec la romancière Stéphanie Desors qui nous dévoile leur vie dans un livre. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Mathieu, bonjour Stéphane.
Bonjour Stéphanie Desors, vous êtes romancière, vous venez en effet de publier Les Heureux du Monde chez Albin Michel, un livre qui met à l'honneur notre couple star du jour, Gérald et Sarah Murphy, ainsi que toute leur bande. Et c'est du beau monde, hein. Hemingway, Fitzgerald, entre autres, pendant les années folles. Est-ce que le couple Murphy, c'est d'abord ça, des heureux du monde, et c'est leur joie, leur insouciance, leur bonheur que vous célébrez tout à la fois à travers ce livre?
Oui, bien sûr, mais pas seulement. C'est d'abord une famille, d'accord ? C'est des gens qui débarquent des États-Unis et qui vont s'enthousiasmer pour Paris. Mmh. Et ils s'entourent justement d'artistes. Alors oui, ce sont des mécènes. Ça leur plaît, ils aiment ça. Et Gérald est un peintre. Et Gérald est un peintre qui est assez méconnu, mais pourtant ses tableaux sont dans les plus grands musées du monde. Et il sera l'initiateur du pop art. C'est l'art qui les attire, mais c'est une époque où les esprits vifs se retrouvent. L'intelligence, la musique, tout ce qu'on appelle les arts mineurs, finalement, explose. Nous sommes juste après la guerre, après la grippe espagnole qui a fait 50 millions de morts. Donc les Murphy, c'est des gens, oui, qui savent s'entourer parce qu'ils aiment ça. Ils aiment la peinture, ils aiment la musique. Sarah
mais c'est aussi une colonie de réfugiés. Enfin, pardon de le dire, mais l'Amérique est en pleine prohibition. Ils se retrouvent entre Américains, d'abord...
Bien sûr.
Parce qu'on boit du champagne.
Oui, mais ils auraient pu choisir un autre endroit, Stéphane.
Oui. Là, mais ils ont le sens, ils aiment le soleil. Alors que...
Mais ce qui est très novateur à l'époque, d'ailleurs, d'aimer le soleil. Enfin, aujourd'hui, tout ça nous paraît simple.
Bien sûr. Mais alors, vous parlez du soleil, c'est surtout qu'ils n'aiment pas le froid. Oui. Et que leurs premières vacances, où vont-ils ? À Oulgat. Alors, je suis désolée pour les auditeurs normands qui nous écoutent, mais Oulgat, cela ne leur plaît pas du tout, du tout, du tout. Et oui, ils vont filer sur la Côte d'Azur et s'abreuver de soleil. Mais avec eux, ils emmènent tous leurs amis. Je veux dire, ils vont être suivis par Picasso, par Fernand Léger, par Gertrude Stein et la folle colonie qui, en fait, se nourrit de bons mots, de littérature, de peinture, se retrouve aussi au Cap d'Antibes.
Mais c'est pas que des gens aisés, c'est des précurseurs aussi tous. Enfin, si on cite Picasso,
non, ce ne sont
exemple.
Pas que des gens aisés. Je veux dire,
non, pas forcément aisés, mais je veux dire, c'est des gens précurseurs. Ils sont un peu originaux,
oui,
si j'ose dire.
Oui, alors ce sont des gens précurseurs. Oui, Stéphane disait, bon, il quitte les États-Unis. Alors, il quitte les États-Unis, certes. C'est le pays du conservatisme, de la prohibition. Et puis, quand on arrive en France, quand on est américain, $1 égale 19 francs. Ça aide. Oui, alors, bon, les Murphy sont milliardaires.
Ça aide encore plus.
Ça aide encore plus, mais tout ce qui les anime, c'est l'art et c'est comment dire. Sarah est une femme libre, non conventionnelle, mais elle est surtout génératrice d'univers incroyables. De chaque chose, elle va inventer un univers. Vous parliez du sanatorium dans lequel on retrouvera son fils des années plus tard. Elle en fera une aventure épique. En fait, ils inventent un univers, ils le baignent de flamboyance. Alors, les autres sont attirés. D'accord ? Et ils les accueillent dans leur maison, cette villa américaine. Il va y avoir des dépendances, la ferme des Orangers, que les enfants rebaptiseront la ferme des Dérangers. Il y aura plein de dépendances dans lesquelles ils accueillent tous leurs amis. Les Fitzgerald, les Hemingway, Fernand Léger, qui n'a pas un sou. Ils sont tous autour des Murphy.
Ce côté flamboyant, c'est ça qui est vraiment fascinant chez eux. Je trouve, vous rappelez la dédicace de Tendre et la nuit, dont le couple Murphy a inspiré à Fitzgerald ses personnages de Dick et Nicole Diver. Pour Gérald et Sarah, tant de fêtes. Fitzgerald a tout dit, finalement, leur vie, c'était la fête.
Non, pas vraiment. Mais ça commence comme ça. Et en fait, cette dédicace pour Sarah et Gérald de tant de fêtes... Moi, j'ai lu Tendre et la nuit quand j'avais 15 ans. Bon, ça m'a emportée. J'avais d'abord lu Gatsby. Vous savez que Fitzgerald disait... Gatsby est un tour de force, Tendre et la nuit est une profession de foi. Quand j'ai lu ce livre qui est difficile, qui a des maladresses, qui est construit de façon pas très simple, d'ailleurs il y a eu 17 moutures, je veux dire, cette dédicace, la peinture des personnages de ce livre m'a enflammée. Et oui, je suis allée vers les Murphy. Et oui, il y a de la fête, bien sûr, parce qu'ils savent recevoir, parce qu'on se baigne de champagne. Mais il n'y a pas que ça. D'accord ? On construit... ce sont des peintres. C'est l'art avant tout. Et puis
il y a
c'est...
du fond, quoi. C'est pas juste...
Mais oui, et puis c'est une famille. N'oubliez jamais ça. Ils ont 3 enfants. Ils élèvent leurs enfants d'une façon qui est totalement non conventionnelle. Ils ne les mettent pas à l'école. Ils les ont avec eux. Ils font des choses avec eux. Ils les aiment. Ils inventent des jeux pour eux. C'est une famille avec des vraies valeurs et une flamboyance. Pour Fitzgerald, en fait, le choc est immense parce que les Murphy, c'est un peu leur double. Hein. Gérald et Scott, c'est la même féminité, la même fragilité, le même talent. Sarah et Zelda, c'est la même sensualité, le même côté chatte. Voilà, sauf que ce qu'ont les Murphy, que n'ont pas les Fitzgerald, c'est des valeurs, c'est une famille. Et pour Fitzgerald, Soleil Noir, le choc est immense et ce choc va donner Tendre et la nuit, qui est en fait l'histoire qui est un mix de ces 4 personnages, les Murphy et les Fitzgerald.
On va continuer à parler de nos personnages qui ont fait rêver la Riviera et de Sarah et Gérald Murphy en particulier avec notre invitée Stéphanie Desor sur Europe 1. À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Ils font rêver la Riviera. La Riviera les a fait rêver. C'est notre thème cet après-midi dans Historiquement vôtre. Avec Stéphane, on parle de Gérald Murphy et Sarah Murphy avec notre invitée Stéphanie Desor qui publie justement Les Heureux du Monde chez Albin Michel. Stéphanie Desor, vous écrivez dans votre livre « Les Murphy ont inventé la garoupe et le cap d'Antibes, les bains de soleil et la côte d'Azur. » En fait, on a l'impression que les Murphy ont inventé tout ce qui est élégant, spirituel, artistique, chic et civilisé. La Riviera existait avant eux, mais ils l'ont réinventée d'une certaine manière en la modelant à leur image ?
Oui, mais ils arrivent au Cap d'Antibes, invités par Cole Porter. Ils débarquent à l'hôtel du Cap et Monsieur Sella, le patron de l'hôtel du Cap, l'hôtel est fermé. Et alors les Murphy le supplient, lui disent « Mais si, gardez votre hôtel ouvert, nous allons inviter nos amis. » Et Monsieur Sella va naturellement garder l'hôtel ouvert et ils vont tous arriver, de Picasso à Cocteau, en passant par Radiguet, etc. Et alors, ils ont aimé le soleil. Ils se sont enduits d'huile de chaldée avant tout le monde. Ils avaient le culte du corps. Gérald était un homme magnifique, très bien fait, qui était nu la plupart du temps. Il y a des photos de lui, des photos extraordinaires où il barre son voilier, il est nu, on voit son corps se dessiner. Sarah était, non mais il était très très drôle, Sarah lui avait cousu un maillot de bain, alors c'était un petit short tout moulant comme on peut porter aujourd'hui, il était couleur chair et sur ce short tout moulant elle avait cousu la dentelle noire, c'est vous dire. Elle était à moitié nue avec toujours ses perles qui pendaient le long de ses épaules et c'est vrai que la garoupe, il découvre cette crique extraordinaire, mais qui fait 20-40 mètres, couverte d'algues et de galets. Et un à un, ils vont enlever Gérald et ses enfants tous les matins, vont dégager la plage. Et oui, ils ont inventé la crique de la garoupe, qui aujourd'hui est un endroit magique. Je le sais, j'y ai passé mon 25 mètres brasse. Donc, je peux vous dire que la garoupe, pour moi, ça veut vraiment dire quelque chose.
Et mais ils étaient très sages ou pas ? Parce qu'on parle de baignades endiablées, de soirées arrosées. Ça dérapait un peu ? Il y avait un peu de sexe ou pas ?
Recentrons le débat.
Mon cher Stéphane, c'est pas une question de sagesse, c'est une question d'amour. Le couple que forment Sarah et Gérald est un couple fusionnel. Ils partagent tellement de choses que finalement, le sexe, qu'en est-il ? Il y a un problème, je vous l'avoue. Oui, les fêtes étaient très sages. Parfois, elles tournaient mal, mais elles tournaient mal quand ? Quand les Fitzgerald débarquaient, d'accord ? Et tout d'un coup, ils s'amusent casser les verres, lancer des olives, etc. Ça devient n'importe quoi. Et les Murphy vont les mettre dehors. Quand la fête dérape, c'est la faute des Fitzgerald. Et les Fitzgerald vont être interdits pendant 6 semaines de Villa America. Ils vont très, très mal le prendre. Mais la fête est là. Je veux dire, on ne se couche pas. On danse, on boit... Mais il y a surtout c'est l'esprit qui est là, on parle, on échange, mais non, sexe, pas chez les Murphy en tout cas. Chez les autres, chez Hemingway arrive, qui est toujours marié à Adley et qui arrive avec Pauline, certainement, oui.
Mais... Ça vous aurait plu, Mathieu, d'être invité
à cette époque-là ? Ah ben là, moi, je suis en train de me projeter complètement, là, j'imagine, j'ai envie de remonter le temps. C'était l'époque, c'était la déferlante du jazz, évidemment, musicalement. C'était quoi la bande-son de ces soirées ? Il y avait ce fameux Cole Porter en deux mots, comme l'a signalé Stéphane, qui s'y connaît bien en jazz. Qu'est-ce qu'on écoutait ? On dansait le Charleston, comme à Paris ?
Bien sûr qu'on dansait le Charleston, mais j'ai envie que d'une chose, mon cher Mathieu, c'est l'apprendre. Apprendre à danser le Charleston, parce que je l'entends. Alors oui, on écoutait beaucoup Cole Porter. Et puis, tenez-vous bien, alors il y avait le groupe des Six. Sarah était très copine avec Francis Poulenc. Elle adorait Satie. C'est toute une musicalité totalement différente. Et un jour, je ne sais plus qui, ramène des États-Unis un disque. Et alors là, c'est très bizarre. Il y a une voix qui est liquide, qui est rauque, qui roule, c'est Louis Armstrong. Et on dit, mais qu'est-ce que c'est ? C'est très nouveau. Un autre jour, alors là, nous sommes à Paris, débarque une fille sur le théâtre des Champs-Élysées, nue comme au premier jour, avec un tutu de banane qui se met à loucher. Oui, voilà, Joséphine Baker. Donc, oui, il y a une musicalité, il y a une inventivité dans... partout, dans tous les arts.
Mais Stéphanie, il y a évidemment ce côté très solaire dans votre livre, c'est cette côte d'Azur, de la fête, de la Riviera naissante, au fond, du bonheur insouciant. Et puis, il y a la face plus sombre.
Bien
c'est
sûr.
La Grande Dépression, le jeudi noir, le krach boursier, la maladie des enfants de Sarah et Gérald. C'est, au fond, ce bonheur à double face, en fait.
Mais c'est ça, c'est ce qui nous intéresse. Grandeur et décadence, splendeur et damnation. Et ce qui est extraordinaire chez les Murphy, comme chez les Fitzgerald, et plus tard chez Hemingway, c'est que leur histoire, en tout cas pour les Fitzgerald et les Murphy, épouse en temps réel l'histoire de l'Amérique. D'accord, enfin l'histoire du monde, les années folles, les années, la décade de l'illusion, le krach boursier et la Grande Dépression. Mais les Murphy, ainsi que je le disais tout à l'heure, oui, partent en Suisse parce que leur fils souffre de tuberculose. Mais en Suisse, qu'est-ce qu'ils font? À Grand-Montana, ils inventent le Harris Bar, d'accord? Ils prennent un chalet, eux, ils ont leur chalet. Le petit est dans le sanatorium, on y va tous les jours, c'est épouvantable. Mais on vit qu'entouré des amis qui viennent là pour vous soutenir. Et Hemingway est là, on fait venir un piano et tous les Américains bientôt se pressent. Dottie Parker avec ses chiens, un singe, Fernand Léger, tout le monde débarque au Harris Bar. Donc, c'est dur, c'est sombre et ça va être de plus en plus sombre. Pour tout le monde.
Comme
ça
la vie de tout le monde, en fait.
Oh non, ne dites non, pas mais ça.
C'est vrai, dans la vie, bonheur et malheur s'équilibrent sur les fléaux de la balance, on le sait.
Bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est extraordinaire chez les Murphy, c'est que ils regarderont toujours vers le haut, ils regarderont toujours vers la flamboyance et ils se battront à deux, toujours.
Mais ils sont toujours restés ensemble.
Toujours. Toujours. Il y a des photos, j'ai beaucoup de photos d'eux qui sont vieillis dans leur jardin avec leurs petits-enfants. C'est touchant. Extrêmement touchant.
Merci beaucoup Stéphanie Desor pour se plonger dans le bain des années folles et dans ce que fut la Riviera. Je vous rappelle le titre de votre livre, Les Heureux du Monde, qui vient de paraître chez Albin Michel.
Merci beaucoup.
Merci Stéphanie Desor.
Merci.
Europe 1, historiquement vôtre.
Eux aussi aiment à plonger dans les flots bleus de la Côte d'Azur depuis le ponton du fort de Brégançon. Clémentine Portier-Catanac nous entraîne dans l'intimité de nos présidents en vacances. Et oui, comme Martine, l'Élysée va aussi à la plage.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui ne durent souvent que le temps d'un été. Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous entrez dans l'intimité de nos présidents en vacances. C'est ce que raconte d'ailleurs le journaliste Patrick Jay dans son livre « L'Élysée à la plage ». Ça ne s'invente pas aux éditions du Rocher.
Ah oui, oui, ah, je vous aime, chers amis et vous, mes auditeurs, car j'ai lu pour vous ce livre, Nos présidents en vacances. Chaque année, c'est vraiment le marronnier, vous savez, le thème qui revient, on y a droit. Alors, où notre président va-t-il partir en vacances et combien de temps? Ce qu'on aime avant tout, c'est que nos présidents, ils restent en France, on n'aime pas qu'ils s'en aillent ailleurs. Et le principe général qui préside à cette observation par nos concitoyens des vacances présidentielles, c'est qu'on n'est jamais content. Alors, Nicolas Sarkozy, il était trop bling-bling, on n'était pas content parce qu'il a accepté de séjourner chez des copains milliardaires sur un bateau. Voilà, François Hollande, ah bah lui il est trop normal, alors bon, je cite le livre, hein. Il déambulait vêtu d'un polo difforme entre les plagistes de Cabasson. Ça va pas du tout, il faut quand même que notre président ait un certain standing. Alors c'est notre actuel président qui a renoué avec le fort de Brégançon et il a fait installer une piscine, là encore, grosse polémique. Est-ce qu'on avait droit d'aller dépenser de l'argent pour faire une piscine? Bon, en tout cas, c'est bien. Il retourne à Brégançon alors que les présidents précédents n'aimaient pas du tout cette bastide austère, isolée, enfin assez inhospitalière. Alors, attention, qu'on se rassure, les présidents, quand ils sont à Brégançon, ils continuent de bosser quand même. Ils sont peut-être sur la Riviera dans un décor de rêve, mais enfin, entre deux balades en jet ski, ça bosse. Hein. À Emmanuel Macron, il y a reçu Vladimir Poutine, Angela Merkel, et l'auteur résume ça avec esprit. Hein. Tout se passe comme si le président devait mettre en scène ses vacances, mais sans jamais véritablement se reposer. Il y a l'art et la manière d'être un président en villégiature. Oui, c'est tout un art. Hein. Ok, bon. Un peu de fun, ça va, mais pas trop. Faut rester au boulot quand même, faut pas dételer. Alors, la nouveauté de la Ve République, hein, on a eu 8 présidents. C'est la médiatisation de ces vacances présidentielles. Hein, alors qu'on imagine quand même assez mal le président de la République acceptant de se faire filmer à la boisserie. le général de Gaulle. Le général de Gaulle en maillot de bain, vous imaginez ça? Non, écoutez, franchement. Alors, qui a eu l'idée de commencer à mettre ses vacances en scène? C'est VGE, parce qu'il a été en toute chose très inspiré par le ménage Kennedy. Et donc, c'est le premier président de la République qu'on a pu voir en maillot de bain. La préface du bouquin, l'Élysée à la plage, est conclue par cette phrase: un président ne devrait jamais prendre de vacances, car il est rarement autant importuné que quand il ne travaille pas. Donc, c'est vrai qu'il a bien plus la paix à l'Élysée qu'en vacances. C'est quand même paradoxal.
En même temps, on a la paix quand même sur le rocher de...
Oui, qui peut venir vous embêter
de Brégançon.
Ah, oh,
depuis que
oui.
Le général de Gaulle, d'ailleurs, avait choisi à dessein cette...
Il y a quand même un peu peut-être des paparazzi. L'espace aérien est interdit.
Oui.
Bien sûr, on s'en doute. Ah, en tout cas, alors, dans le bouquin, il y a tout un chapitre consacré à la boisserie et au président, puisqu'on prend tous les présidents de la Ve République. Mais bon, évidemment, De Gaulle, lui, n'aimait que la boisserie, n'allait qu'à la boisserie. Il est allé une fois à Brégançon, il s'est fait bouffer par les moustiques. En plus, le lit était beaucoup trop petit pour lui, il avait les pieds qui dépassaient. C'était la nuit du 15 août 64, il n'était pas content du tout. Il a quand même fait mettre les lieux à neuf. Enfin, il n'y a plus mis les pieds. En fait, celui de nos présidents qui préférait les vacances et qui y allait très souvent, c'était Pompidou. C'était Pompidou. Et justement, avant d'être président de la République, quand il était Premier ministre, il allait à Saint-Tropez. Il adorait ça. Hop, dans sa Porsche blanche avec madame, le général de Gaulle lui dit: écoutez, maintenant, Saint-Tropez, c'est fini, vous allez en Bretagne. Bon, alors, il faut voir une chose, et ça, j'ai appris ça dans ce bouquin, c'est quand même étonnant, je n'avais jamais réalisé, c'est que les vacances présidentielles, autrefois, étaient bien plus longues. Elles se calquaient sur le calendrier parlementaire. Donc, en gros, 14 juillet, 15 septembre, ça fait deux mois de vacances. Mais si. Alors, si vous prenez Pompidou, il allait une dizaine de jours dans le Var, 15 jours en Bretagne, un mois à Carjac chez lui dans le Lot, et puis encore un petit séjour dans le relais de poste qu'il a acheté dans les Yvelines. Il était en vacances tout l'été.
Mais il bossait. Enfin, il bossait quand même.
Oh, un petit peu, non. Il a fait surtout moderniser Brégançon. Il en a fait une maison de famille. Alors, on y jouait à la pétanque, on sortait en mer. Pendant ce temps-là, dans la presse, Philippe Bouvard commentait la couleur des maillots de Madame Pompidou. Et alors, à chaque fois qu'il venait à Brégançon, comme Jacques Chirac après lui, il se faisait servir quoi ? Une bouillabaisse et une tropézienne. Ah, vraiment, l'esprit d'à-propos. Bon, alors, en plus, Pompidou est le premier à avoir invité la presse à Brégançon. Et à Carjac, il s'est laissé filmer avec son petit-fils. C'est vraiment le début de la pipolitisation. On n'a plus de secret pour ses administrés, y compris en vacances. Et c'est parce que c'est l'époque à laquelle Jackie Kennedy fait visiter la Maison-Blanche. Bon, VGE, lui, prend ses vacances d'abord à Cap-Ferrat. Il conduit lui-même sa voiture. Il accueille des journalistes. Lui, il adorait Brégançon. Vous savez, quand même, sa femme a failli s'y noyer. Bon, heureusement, il y avait des gendarmes avec un Zodiac qui sont allés les repêcher. Mais enfin, Giscard, lui, partait aussi beaucoup en Afrique parce qu'il adorait chasser. Nombreux déplacements privés en Afrique. Il va même chasser un éléphant, tuer un éléphant dont les défenses sont exposées dans son appartement parisien, rue de Bénouville. Mais au passage, il passait des vacances en Afrique avec un confort assez sommaire. Ce n'était pas non plus le grand luxe. Bon. Alors, Mitterrand, c'est quoi les vacances de Mitterrand? Vous savez ça? Vous êtes trop jeune, Mathieu.
Il est dans les Landes.
C'est Lacé, bien sûr. Lacé. Tous les chanceliers allemands, notamment, ils sont invités. Willy Brandt, Helmut Kohl, Helmut Schmidt. Mitterrand passe son temps à lire. Il se promène dans les pinèdes. Il a une passion pour les arbres. Il connaît toutes les essences d'arbres. Puis alors après, il va saluer Marron et Noisette, ses deux ânes. Et à force de racheter parcelle après parcelle, il a quand même fini par posséder 45 hectares autour de sa maison, la bergerie. C'est devenu un riche propriétaire terrien et qui avait évidemment un pied-à-terre aussi à Gordes avec Anne Pinjot. Alors bon, l'anecdote du livre autour de Nicolas Sarkozy, c'est évidemment l'arrivée de Stéphane Bern, qui se rend à Brégançon.
C'est
Dieu, je n'ai point de maillot de bain.
J'étais invité à déjeuner.
Je n'ai point de costume de bain.
Et le président dit, on va d'abord aller se baigner. Moi, je dis à Carla, écoute, je
vais
pas
toujours prévoir un petit maillot de bain.
Vous êtes invité à déjeuner, vous emmenez un maillot de bain.
Au moins un string, un truc comme ça. Ça ne prend pas beaucoup de place dans un polo
chouchou. Passes-tu donc ton maillot de bain?
Et vous rentrez dedans?
Largement.
Vous faites la même.
Perfidie.
À l'époque, j'étais assez mince.
Perfidie.
Et ça l'a énervé, je crois.
C'est vrai?
Oui.
Belle anecdote, voilà. Stéphane.
Ne rosissez pas.
Mais c'est vrai que c'est pas une maison très confortable. Non, mais il faut le dire. Parce que
les gens s'imaginent tout et n'importe quoi. Oui, alors, on imagine un truc. Spartiate.
Et puis, moi, j'ai connu surtout les décorations de Bernadette Chirac.
Ah oui,
c'était... Il y a beaucoup de chines très fleuries, vous voyez.
Des... Aïe.
D'accord, vous voulez dire que c'est lourd et moche, c'est ça?
L'orage,
non, 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 non. Oui, c'est très fleuri, quoi. C'est, très... c'est une maison...
Et le maillot de bain Nicolas Sarkozy, c'était quoi? Il y avait des motifs? Il y avait
non,
des...
non, il était jaune.
Oui, mais il était jaune, déjà.
D'unicouleur, voilà.
Jaune fluo. Vous avez gardé des photos?
Non, non, on ne prend pas de photos dans ces cas-là. Déjà, je n'étais pas venu avec mon maillot, je n'étais pas venu avec mon appareil photo.
C'est dommage. C'est dommage que les paparazzi n'aient pas saisi ce moment.
Photo,
sont... avec le caleçon jaune.
Il y a un truc qu'il faut vous raconter sur. C'est que d'un côté, vous avez la plage publique.
Oui.
Et il y a le chemin qui mène jusqu'au fort. Et les paparazzi sont sur la plage publique. Mmh. Ils sont penchés dans les arbres. Et quand vous arrivez en bas pour aller sur le chemin du fort, il y a une petite voiture électrique qui vous conduit en haut du fort. Et il y a le chauffeur de la petite voiture électrique, il y a un policier ou un gendarme à côté, et vous, vous êtes forcément derrière, c'est-à-dire regardant face à la plage.
Ah, c'est le petit piège, donc là, vous êtes mitraillé.
Le piège, vous êtes mitraillé en photo.
Et vous l'avez fait coucou avec votre, votre maillot de bain jaune.
Après tout, c'est pas
moi, c'est pour ça
honte.
Que je vais pas à Brégançon, parce que je veux pas être prise en photo en maillot.
J'étais invité par Carla. Et voilà,
oui, bien sûr, mais vous avez le droit,
Stéphane. Bah oui,
vous avez
le droit
de mener grand train.
C'est votre vie, c'est votre droit.
C'est vos impôts.
C'est mes impôts qui payent votre déjeuner à Brégançon, mais c'est ainsi, Stéphane. Je suis content pour vous.
Dans ma vie,
de toute façon, vous allez payer, puisque maintenant, c'est l'heure du quiz.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Chaque après-midi, aux alentours de 5h-10, je commence à connaître mon Stéphane. Il n'a plus qu'une chose en tête, une seule et unique obsession, quelque chose qu'il veut plus que tout.
Des frites.
Non, frites, non, Stéphane, la victoire. La victoire dans le quiz, c'est ça qui est important. Jouons
c'est
à Bern Tobiola.
Une spéciale duche.
Vous le faites bien. Alors, question numéro 1 pour vous, Stéphane. Stéphane, plongeons ensemble, si vous le voulez bien, au temps de l'Empire romain. Si je vous offre un suavium, ça veut dire que je vous offre une demi-douzaine d'esclaves. On considérait que c'était le minimum pour une domus, comprenez, un domicile digne de ce nom. Vrai ou faux?
Non, je crois pas.
Non, je crois pas. Toujours dans les tuches. Vous croyez pas?
Oh. Pourquoi ça aurait de suavium? Ça fait penser à suavité ou suave, pas du tout.
Justement.
Donc vous dites?
À moins que ce soit un petit plaisir. Je vous offre six partenaires.
Vous avez gagné.
C'est vrai, Stéphane. Enfin, vous avez la bonne réponse.
Mais je suis pas tombé dans le piège.
C'est un baiser charnel. Voilà. C'est l'ancêtre, précisément, du French kiss dont nous parlions l'autre jour. C'est un baiser avec la langue. Il y avait trois baisers chez les Romains. L'osculum, c'est le baiser social. Le basium, le baiser tendre. Et le suavium, le plus charnel. Vous me direz en antenne celui que vous préférez. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Au XVIIe siècle, quand on chantait la comptine « Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés », c'était en fait une métaphore de la perte de la virginité. Quand on faisait l'amour pour la première fois, on avait coutume en Normandie de couper un peu ses cheveux. Vrai ou faux?
Sur les lauriers sont coupés, oui, c'est une... La belle que voilà ira les ramasser. Donc oui, en effet, c'est une, y a une allusion à la sexualité féminine. Derrière, c'est comme il court, le furet. Mais là, c'est une contrepétrie. Oui, oui, c'est vrai. Alors, est-ce que les jeunes filles avaient l'habitude de se couper une mèche de cheveux? Là, ça, je l'ignore. Mais en tout cas, que nous n'irons plus au bois, oui, c'est une allusion à la perte de la virginité, en tout cas à la sexualité. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés, la belle que... Entrons dans la danse, vous voyez... Embrasser qui vous voulez. Oui, moi je pense que c'est une chanson qui fait allusion clairement au passage à la vie de femme. Oui, je réponds oui.
Vous avez perdu.
Vous avez perdu, Clémentine. C'est une chanson sur les maisons closes. Nous n'irons plus au bois, c'était les maisons de tolérance. Les lauriers sont coupés. Ces maisons avaient des lauriers accrochés aux façades. Louis XIV ferme les maisons closes pour limiter la propagation des maladies vénériennes qui touchaient les ouvriers travaillant dans les jardins de Versailles, figurez-vous.
Je ne l'ai jamais entendu. Vous l'avez entendu raconter comme ça, Stéphane?
Non,
pourtant, les lauriers sont coupés, la belle que va loin, ça.
Moi aussi, là, je tombe des nues.
Mais vous tombez des nues, mais le quiz sert aussi à ça, oui, à car ça. Il est
vous
éminemment
saviez,
historique.
Vous
mais moi, alors moi, il faut savoir une chose, c'est que je connais toutes les réponses du quiz.
Mais avant de
non.
dire...
j'ignorais tout à fait cette précision.
C'était une allusion à la perte de la virginité par les jeunes filles.
Alors attention, Stéphane, question numéro 3, elle va permettre de voir plus clair dans des choses que nous évoquons au quotidien de cette émission. Stéphane, quand après l'émission, vous repartirez au volant de votre Porsche, puisque évidemment c'est dans ce sens-là, vous avez inventé cette même si j'avais
c'est celle de Pompidou.
Ayez une petite pensée pour Ferdinand Porsche. Il a aussi conçu des tanks. Vrai ou faux? Attention Stéphane, chaque mot compte.
Non. C'est pas Ferdinand Porsche qui a conçu des tanks.
C'est pas Renault les tanks, c'est pas
ma
nous,
question
c'est pas
n'est
français.
Pas de s'il a inventé le
est-ce
tank,
qu'il en a
c'est est-ce qu'il a conçu des tanks.
Bon, écoutez, non. En même temps, pendant l'effort de guerre, peut-être qu'on a sollicité
des
Porsche.
Mais je suis pas sûr, il dit chaque mot compte, donc c'est Franck.
Et Franck Ferdinand Porsche.
À Ferdinand. Bon, écoutez, je sens que vous voulez me faire dire que Ferdinand Porsche a conçu des tanks.
Mais moi je ne veux rien, je suis l'arbitre impartial de ce quiz.
Pas impartial, non. Alors oui, il a conçu des tanks.
Vous avez gagné.
Ah Stéphane, vous connaissez bien la marque Porsche. Oui, il a même conçu le plus lourd jamais construit, le Panzerkampfwagen 8 Maus. Il l'avait fabriqué en 1942, très confortable. Hein. Il pesait 188 tonnes, tout cuir, magnifique. Il consommait...
Avec de quoi se faire du thé, vous vous souvenez, Stéphane?
Il consommait 4000 litres au 100. Il avait une vitesse maximale de 13 km/h. Il est resté à l'état de prototype.
Il servait à quoi? Non, mais c'est bien ce que je vous disais. Comment c'est qu'en temps de guerre, on sollicite tous les constructeurs. Allez-y.
C'est comme nous, pendant la pandémie, là, on a sollicité tous les fabricants pour les masques.
Bien sûr. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Van Gogh n'a jamais vendu de toile de son vivant. Vrai ou faux?
Non, en fait, je crois que c'est faux. On l'entend dire très souvent. Je crois qu'il a quand même dû en vendre une ou deux avant sa mort. Enfin, une ou deux, je ne sais pas. Mais je me demande s'il n'en a pas vendu une au docteur Gachet, justement, non? Encore que le docteur Gachet le soignait, donc c'était peut-être un échange de bons procédés. Non, je crois que c'est une légende et qu'il en a quand même vendu quelques-unes ou par son frère Théo, me semble-t-il.
Vous avez gagné.
Bonne réponse, c'est un peu une légende. En fait, Vincent Van Gogh en a vendu une de toile. C'était la Vigne Rouge. Il l'a vendue 400 francs en 1888, quelques mois seulement avant son suicide. L'œuvre est aujourd'hui au musée des Beaux-Arts Pouchkine à Moscou. L'entrée est à 400 roubles. Et vous voyez, 400 francs de l'époque. Alors évidemment, ça devait représenter plus que... l'équivalent de 400 francs aujourd'hui, oui, l'équivalent de 400 euros, mais enfin quand même, c'est une belle affaire. Il a vendu une seule toile, ce pauvre Vincent.
Oui.
Et c'est une victoire de qui? C'est une victoire de mon champion.
Ah bon?
Stéphane, comment ça? Ah bon?
2-1.
Mais
deux,
vous ne savez pas compter non plus.
Bah
c'est
non,
une belle
sais pas
victoire.
Compter, c'est pas, faites pas comme
deux
si vous le saviez pas.
2-1, bravo Stéphane, c'est une victoire.
Grave.
Sur la Panzer Division, chapeau.
Fait, ben, on aura noté que Stéphane connaît bien la marque Porsche. Merci, bravo.
Europe 1, historiquement vôtre.
C'est un fait que je viens de porter à la connaissance de Stéphane Bern. Il y a aujourd'hui, en 2021, des gens qui ne sont jamais allés en vacances sur la Côte d'Azur, qui ne sont jamais descendus ni au Biblos, ni au Majestic, ni au Negresco.
Mais dans quel monde vit-on?
C'est vrai que c'est fou, Stéphane. Mais je vous rassure que ce n'est pas le cas de nos personnages qui, eux, ont follement aimé la Riviera.
Ah oui, la Riviera les a fait rêver. Et ils ont fait rêver la Riviera. Après le couple Murphy, je vous raconte l'histoire de l'homme qui a découvert la ville de Cannes. Un lord anglais nommé Henry Broom. Et puis, avec vous Mathieu, on évoquera un amoureux de la Riviera plus vivant.
Oui Stéphane, avec moi aujourd'hui, vous ne saurez plus si vous êtes sur Europe 1 ou sur Non Stop People. Je vous brosse le portrait à 99% vrai de Georges Clooney, la star qui cherche à acquérir une propriété qu'on qualifiera de pas dégueu à Brignoles dans le Var. Retour sur le destin inouï d'un type qui revient de très loin quand on sait qu'il a démarré dans un film qui s'appelait Le Retour des Tomates Tueuses.
– 16h-18h sur Europe 1,
historiquement vôtre.
– Historiquement vôtre, l'histoire sans se la raconter, chaque après-midi avec Stéphane Bern, autour de trois personnages très différents. Ils ne vivaient pas la même époque, mais ils avaient un point commun. Aujourd'hui, la Riviera les fait rêver, et bien ils ont fait rêver la Riviera.
– Oui, après les heureux du monde, Sarah et George Murphy, je vous raconte Henry Broom, un lord anglais qui a donné ses lettres de noblesse à la ville de Cannes, bien avant que le festival n'existe.
– Mais tout de suite...
Il est 17h sur Europe 1.
Les infos avec vous, Diane Chenouda.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La vaccination contre le Covid, Emmanuel Macron veut répondre aux inquiétudes des Français sur Instagram. Le chef de l'État en vacances au fort de Brégançon appelle les Français à se faire vacciner, y compris les jeunes, dont certains sont gravement touchés, dit-il. Vous faire vacciner, c'est réduire le risque de contaminer les autres. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos proches. Prenez soin des autres, fin de citation. Emmanuel Macron qui veut répondre ainsi aux fausses informations, aux fausses rumeurs sur la vaccination. la seule arme, selon lui, face à la quatrième vague de Covid. Quant à Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, il espère 90% de vaccinés au début de l'automne en France pour atteindre l'immunité collective. 102 femmes tuées sous les coups de leur conjoint l'an dernier en France. Parmi elles, près d'une femme sur cinq avait porté plainte. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce de nouvelles mesures pour lutter contre les violences conjugales. Les plaintes seront traitées en priorité et un officier spécialisé sera présent dans chaque commissariat et dans chaque brigade de gendarmerie. Une décision très attendue par les 270 salariés d'Ascoval aujourd'hui. Le tribunal de commerce de Paris doit valider d'ici ce soir la reprise des sites français d'Ascoval et d'Ayange. Deux offres sont sur la table, celle de l'allemand Sarchtal et l'autre d'ArcelorMittal. La journée des Français aux Jeux Olympiques de Tokyo, marquée par une sixième médaille d'or, de l'or pour Jean Quiquempoix au tir rapide et du bronze en équitation, par équipe en concours complet pour Nicolas Touzian, Karim Lagouag et Christopher Six. Et puis en natation artistique, les sœurs jumelles Charlotte et Laura Tremble sont bien parties pour se qualifier pour la finale de l'épreuve de duo. Elles ont terminé 8e dans le programme libre et elles disputeront demain le programme technique, donc au JO de Tokyo. La Grèce, frappée par la pire canicule depuis plus de 30 ans, avec un mercure à 45 degrés, une vague de chaleur qui touche Athènes également. Dans la capitale, on dépasse les 40 degrés et les touristes sont refoulés de l'acropole à cause de cette chaleur. Et puis, les pompiers luttent toujours contre deux feux importants sur l'île de Rhodes et au nord-ouest du Péloponnèse. Plus de 3000 hectares de pinèdes et d'oliveraies sont déjà partis en fumée près de Patras et 8 personnes ont été hospitalisées. En France, l'accès à une dizaine de massifs du Var est interdit en ce moment en raison du risque d'incendie. C'est à suivre dans le journal de 18h. Et puis, une belle nouvelle au zoo de Beauval. Les bébés pandas de Wanwan, la femelle panda prêtée par la Chine, eh bien, sont enfin nés. Les jumelles sont en bonne santé.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
17h03 sur Europe 1. On retrouve tout de suite Stéphane Bern et Mathieu Noël dans Historiquement Vôtre.
(rire) 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement Vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement Vôtre. Deux heures pour doper votre culture générale sans aller jusqu'à vous fouler un neurone en compagnie de celui qui n'en a plus beaucoup. Mathieu, vous voulez bien nous rappeler le thème du jour ?
Eh bien, c'est simple, Stéphane. L'autre jour, à la machine à café, on parlait des vacances qui approchent à grands pas. Je vous disais que de mon côté, j'avais réussi péniblement à mettre de côté suffisamment pour envisager deux semaines en demi-pension au camping des Tamaris, dans l'arrière-pays varois, en formule bungalow. Vous me disiez avoir réservé de votre côté pour un mois tout un étage de l'hôtel Majestique à Cannes pour, je vous cite, ne pas être emmerdé par les cons. Deux visions des vacances, deux budgets différents. Hein, mais une même passion non, pour la Côte d'Azur.
Enfin, vous pouvez pas dire tout et n'importe quoi. Oui,
et tout et son contraire surtout.
Oui, parce que un jour, vous m'accusez d'aller en vacances en Grèce. Oui, c'est le cas.
Ça, c'est le cas.
Donc, je n'ai jamais mis les pieds à l'hôtel Majestic.
C'est vrai, jamais.
Mais non,
jamais.
C'est pas mon truc.
Non, c'est vrai, mais je vous connais un peu. C'est vrai que c'est pas votre truc. Mais vous pourriez, si vous voulez.
Alors, oui, la Riviera les a fait rêver et ils font rêver la Riviera. Après les Murphy, ces Américains aisés qui ont les premiers passé leurs vacances d'été sur la côte dans les années 20, je vous raconte le destin de celui qui a, entre guillemets, découvert Cannes. Au 19e siècle, Lord Henry Broom choisit de s'installer dans un charmant petit village de pêcheurs. C'est la ville de Cannes aujourd'hui. Enfin, lui, Cannes, il y a été souvent. Hein. Mathieu, vous nous brossez le portrait d'un autre amoureux de la Côte d'Azur. J'ai nommé George Clooney.
Oui, Stéphane, il en avait marre des ristretto, des expresso, des vanillos. Il s'est dit, bon, what else ?
Un pastis
pour George. La star hollywoodienne serait en passe de devenir propriétaire dans le Var. L'occasion de brosser son portrait à 99% vrai, bien sûr.
Il veut faire du vin. Sans oublier nos chroniques et nos chroniqueurs. Et ça sent bon le farniente aujourd'hui. Hein. Avec David Cassel-Lopez, on remonte aux origines du tire-bouchon. Vous l'avez
tout,
avec
tout
vous ?
Tout à fait, je ne l'ai pas ici. Parce que c'est un tire-bouchon d'un type un peu spécial. Ah. Et Olivier Pouls, vous avez trouvé quelque chose qu'on va le pouvoir ouvrir avec cet outil.
Oui, parce qu'il faut juste faire une démonstration. C'est pas du tout pour plaisir de boire du vin.
Non, mais
c'est
je vais faire très très fort, les amis, parce que non seulement je vais vous apporter une bouteille d'ici 40 minutes, mais en plus une bouteille qui sera liée à plusieurs thématiques de cette émission.
Voilà. Mais vous êtes on va déguster un dessert typique de cette Riviera qui vous fait tant rêver, Mathieu. C'est la Tropézienne.
Qui ne vient pas du tout de la Riviera, mais on va le découvrir avec Olivier Pouls.
Par contre, ça, je vous en ai pas apporté une part.
Ah oui.
C'est dommage parce que je crois que c'est le dessert préféré de David.
Oui, et puis vous aviez faim aussi, Mathieu.
J'ai un petit peu faim, effectivement. Et ça commence à venir.
C'est Brigitte Bardot qui a lancé la Tropézienne, non ?
Qui lui aurait donné le nom. En tout cas, c'est pas elle qui l'a inventé. Je ne crois pas que Brigitte Bardot cuisinait énormément. Mais bon.
Stéphane, vous aurez le mot de la fin. Chaque jour, l'histoire d'une expression. Aujourd'hui.
Coincer la bulle, c'est ce qu'on fait à la plage. Ça veut dire se reposer, mais d'où ça vient ? Je crains que ça vienne encore de l'univers militaire.
Coincer la bulle, alors ça, je ne l'ai pas employé depuis fort
longtemps. Moi non plus, c'est pas tellement une expression que j'utilise, mais je l'ai entendue, donc je vais vous donner l'explication.
Et tout de suite, les amis, remontons le temps d'un siècle et demi. À l'époque, Cannes n'est encore qu'un petit village de pêcheurs. Stéphane Bern nous raconte le coup de foudre entre ce village et un lord anglais nommé Henry Broom.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Ah, Cannes, son festival, sa croisette, ses soirées, ses palaces, ses chiens qui tiennent en laisse des vieilles dames ou l'inverse. Tout ça n'aurait peut-être jamais existé si un Anglais n'y avait pas posé ses valises en 1834. Stéphane Bern, à défaut de monter les marches du Palais des Festivals, vous nous racontez l'installation sur la Côte d'Azur de celui qui a rendu Cannes célèbre dans le monde entier, Lord Henry Broom.
Nous sommes effectivement, Mathieu, en 1834. Une calèche conduite par 6 chevaux est à l'arrêt aux portes de Nice. À l'intérieur, Lord Broom, accompagné de sa fille Éléonore Louise, tente de négocier le passage. Cet homme politique et avocat anglais souhaite rejoindre l'Italie avec sa jeune fille malade pour essayer de soigner sa tuberculose. Mais Nice est en quarantaine. Une épidémie de choléra vient d'être découverte. Interdiction à quiconque de passer la frontière pour rejoindre la péninsule italienne. Et les titres de Lord, de Chancelier, d'Avocat, de Lord Broom n'y changeront rien. Père et fille rebroussent donc chemin et décident de séjourner à Cannes, le temps de trouver une solution. J'en profite pour rappeler qu'en 1834, Nice est italienne, évidemment.
Bien sûr, c'est la frontière.
Le comté de Nice, c'est la frontière. Il faudra attendre le Second Empire pour que ça repasse à la France. Cannes est alors un village de pêcheurs appelé le Suquet, aux environs infestés de moustiques. Habité par moins de 300 âmes, il est parcouru par 2 rues étroites bordées de maisons provençales, somme toute assez modestes. Henry et sa fille ont passé la nuit précédente dans la seule auberge du coin. Ils y ont été chaleureusement accueillis. Henry Broom, plus habitué au ciel gris et pluvieux de l'Angleterre, tombe instantanément amoureux de la région. J'appréciais le climat délicieux de la Provence, son ciel clair, ses brises rafraîchissantes, tandis que le bleu profond de la Méditerranée s'étendait devant nous, se souviendra-t-il plus tard. On raconte que cet orateur talentueux se délecte de la bouillabaisse locale et ne dit jamais non à un petit verre de vin de pays. Membre de la Chambre des Lords, chancelier, Henry Broom n'a eu de cesse, pendant toute sa carrière politique, de se battre pour défendre des réformes libérales, comme la refonte du système judiciaire anglais ou l'abolition de l'esclavage. Mais à plus de 50 ans, avec une fille malade à charge, Henry aspire à davantage de sérénité. Cet arrêt forcé à Cannes semble être un signe du destin. Henry Broom est conquis, c'est décidé, il veut s'installer à Cannes. Mais dans cette première moitié du 19e siècle, trouver une maison avec un standing digne d'un lord anglais n'est pas chose aisée. Au départ, il aurait jeté son dévolu sur une demeure utilisée par Napoléon quelques années auparavant. Refus catégorique de la France, no way. Un Anglais, aussi prévenant et amoureux de l'Hexagone soit-il, ne peut dormir là où a séjourné l'empereur des Français. Qu'à cela ne tienne, Henri fait l'acquisition pour 13 500 francs d'un terrain à l'ouest du Suquet, avec vue plongeante sur la Méditerranée. Il y fait bâtir une villa, la première maison de villégiature de la ville. Il la baptise du nom de sa fille, Villa Éléonore Louise, comme un hommage à celle qui, victime de sa tuberculose, décède peu de temps avant la pose de la première pierre. Et pourtant, nul doute qu'elle aurait apprécié ce havre de paix bercé dans un jardin luxuriant aux essences d'arbres et de fleurs exotiques, comme s'en souviendra plus tard Henry Broom. Les orangeraies et les plantations d'acacias parfumaient l'air autour de nous, et les forêts derrière, couronnées de pins et de chênes verts, et se terminant dans les Alpes, nous protégeaient par leur éternel granit des vents froids venus du nord. Malgré sa tristesse après la perte de sa fille, Lord Broom, trop épris de la région, ne s'imagine pas repartir vivre en Angleterre. Il décide donc de passer la moitié de l'année à Cannes. Il s'en explique dans une lettre à un ami vivant à Londres. « Dans cette ambiance enchantée, c'est un délice pour moi qui aime les rêves, d'oublier quelques instants la laideur et les misères de la vie. » Henry Broom devient un personnage emblématique de la ville. Il invite ses amis anglais à le rejoindre. Politiques, aristocrates, intellectuels font le voyage. Évidemment, à cette époque, dans les années 1830, voyager est un luxe. Progressivement, la villa Éléonore Louise voit arriver de nombreux Britanniques en quête de soleil, de mer turquoise et de luxe. La réputation de Cannes est lancée. C'est « the place to be ». Broom attire l'aristocratie et même les têtes couronnées anglaises et européennes. La reine Victoria, le tsar de Russie. La ville côtière devient une destination royale. Sous l'impulsion d'Henry Broom, le modeste petit port de pêche s'embellit et devient une belle dame parée de ses plus beaux atours. De magnifiques demeures secondaires, des palaces étincelants sortent de terre en un temps record. La ville se transforme. Le chemin de la Croisette, par exemple, est agrandi. C'est à cette époque que de riches propriétaires anglais introduisent dans la ville des espèces florales venues tout droit des États du Commonwealth. Les canois découvrent, ébahis, les acacias et eucalyptus d'Australie, les groseilliers cultivés aux Indes ou encore les désormais célèbres palmiers. Le biographe G.T. Barra explique qu'au-delà de la ville de Cannes, c'est Lord Henry Broom en personne qui suscite la curiosité des touristes de plus en plus nombreux. À un moment ou à un autre, tous ceux qui ont de l'importance semblent avoir dérivé pour le voir dans le sud de la France. Devenu bien malgré lui une attraction internationale, Henry Broom prend une part active dans la vie économique locale. Il s'investit dans de nombreux projets. C'est à lui que l'on doit, par exemple, la construction du quai Saint-Pierre de Cannes. Broom a eu un parcours politique brillant en Angleterre. Il met donc à profit ses relations étroites tissées avec le gouvernement français. Et c'est grâce à ses connaissances qu'il aide Cannes à obtenir des subventions pour l'aménagement du port maritime. Il a un double objectif avec cette construction. Bien sûr, le nouveau port permet aux produits de Grasse, et notamment les parfums, d'être acheminés plus facilement dans le monde entier. Mais ce port facilite aussi les allées et venues des richissimes estivants qui viennent s'enivrer du climat méditerranéen. Henry est en odeur de sainteté. C'est également grâce à lui que le canal de la Siagne voit le jour. Très ami avec le roi des Français, Louis-Philippe, Broom arrive à convaincre Sa Majesté des bienfaits de ce canal. Henry Broom se sent chez lui à Cannes, à tel point qu'en 1848, il s'imagine même devenir officiellement français. Il envisage aussi de se présenter aux élections législatives dans le Var. Le ministre de la Justice de l'époque, Adolphe Crémieux, lui explique gentiment que, pour espérer être citoyen français, le lord anglais doit renoncer à sa nationalité d'origine. Oh, Henry ne s'en sent pas capable et abandonne son projet de naturalisation. Lord Henry Broom passe les trois dernières décennies de sa vie entre la Côte d'Azur et l'Angleterre. En 1868, à 89 ans, il s'éteint à Cannes et repose depuis dans l'un des cimetières de la ville. Plus de 150 ans après sa disparition, son souvenir est toujours présent. Une statue le représentant trône fièrement et un boulevard porte son nom. Sa villa, Éléonore Louise, est quant à elle toujours sur pied et toujours au pied de la belle Méditerranée.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Lord Henry Broom qui a rêvé de la Riviera et l'a fait rêver aussi, nous sommes avec Gwenaëlle Guyon. Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour Gwenaëlle Guyon. Le temps de se servir un verre de vin de pays et on parle de Cannes avec vous dans un instant et de Lord Broom.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre et nos personnages sur la Riviera continuent. On parle d'Henry Broom avec notre invité Stéphane, Gwenaëlle Guyon.
Oui, Gwenaëlle Guyon, vous êtes maître de conférences en histoire du droit et des institutions à Saint-Cyr et vous avez souvent croisé Henry Broom pour avoir consacré votre thèse à l'histoire du droit du 19e siècle. Mais avant toute chose, son nom, Henry Broom, mais on prononce Broom, pourquoi ? C'est pas, moi j'aurais dit Brougham.
Oui, ça s'écrit Brougham.
Oui.
Alors effectivement en français, cela s'écrit Brougham, et d'ailleurs les Français parleraient plus volontiers d'Henri Brougham. Mais vous l'avez parfaitement bien prononcé, Stéphane, car en anglais, cela se prononce Henry Broom. Broom, d'ailleurs, en insistant sur les « ou ». Et pour la petite anecdote d'ailleurs, Broom en anglais signifie également balai.
Oui,
broom. Et c'est la raison pour laquelle Henry Broom est souvent représenté dans les caricatures de l'époque, affublé d'un balai dépoussiérant le sol, symbole de sa volonté de dépoussiérer le droit et les institutions britanniques.
Alors en France, Henry Broom est relativement méconnu, hormis sur la croisette. Outre-Manche, il est populaire ?
Oui. Henry Broom fait partie en réalité des grands personnages politiques de l'histoire anglaise au XIXe siècle. Il est assez largement méconnu, mais somme toute comme beaucoup de ses contemporains, qui en France connaît Samuel Romilly, Sir Robert Peel, Lord Melbourne. Mais j'insisterai plutôt en disant qu'il figure parmi les grands hommes politiques de son temps, et surtout qu'il est le meilleur orateur de son époque.
Ce qui l'a rendu populaire en Angleterre, ce sont ses combats. Je l'ai mentionné, il était l'un des grands défenseurs de l'abolition de l'esclavage.
C'est cela. En réalité, il fait partie du parti des Whigs, qui est le parti plutôt libéral et qui s'oppose au parti des Tories. Et à partir de 1810, il est de tous les combats qui sont livrés par le parti libéral. Et il est l'un des plus ardents promoteurs de l'abolition de l'esclavage, laquelle abolition sera votée en 1833 et progressivement, l'esclavage sera aboli jusqu'en 1838.
Vous nous disiez que c'était un grand orateur. C'était son talent principal. C'était à la tribune qu'il était le plus impressionnant.
Oui, c'est ça. Il ne laissait personne de marbre. Et déjà, en tant qu'avocat, lors des audiences, il avait le talent pour emporter la conviction des jurys, mais aussi pour irriter un peu le juge et susciter la jalousie de la partie adverse. Mais c'est vraiment en tant qu'orateur à la Chambre des communes qu'il se fait remarquer. Et il détient d'ailleurs deux records au Parlement de Westminster, puisqu'il a prononcé les deux discours les plus longs de toute l'histoire politique anglaise.
Mmh. Alors, ce qui est assez rigolo dans notre émission aujourd'hui, c'est qu'on parle de ceux qui ont fait rêver la Côte d'Azur. Henry Broom a fait de Cannes un lieu d'attraction, mais contrairement à nos personnages dont on parlait dans la première heure de l'émission, c'est donc presque un siècle plus tard, c'est Sarah et Gerald Murphy, contrairement à eux qui ont fait parler de l'endroit pour la beauté des plages, pour le lieu lui-même, là, dans le cas d'Henry Broom, c'est plus lui-même, sa personne qui a polarisé, qui a attiré des gens dans cet endroit de villégiature qui s'était trouvé.
C'est cela. Parce qu'il s'était fait remarquer, il a toujours été en réalité un défenseur des classes moyennes, on va dire de la bourgeoisie propriétaire. Et alors, il est l'artisan de la lutte contre l'esclavage. Il a aussi été toujours, tout au long de sa carrière politique, le champion des classes moyennes. Et donc, il a gagné le soutien de l'opinion publique et cette notoriété, cette célébrité outre-Manche.
Et alors, il fuyait évidemment l'Angleterre pour the English weather, parce qu'évidemment, il voulait soigner sa fille Éléonore Louise. Et puis, il était francophile, on peut le dire, c'est-à-dire qu'il était très imprégné des idées du siècle des Lumières, Rousseau, Voltaire, il était francophile vraiment.
Oui, bien évidemment, il était francophile, il parlait couramment le français, mais comme tous les hommes politiques britanniques de son temps. Et surtout, lorsqu'il était jeune, en tant qu'avocat, donc avant que ne débute véritablement sa carrière politique, il a beaucoup produit. Il était l'intellectuel de son temps, classique si vous voulez, c'est-à-dire le touche-à-tout, qui était capable d'écrire dans tous les domaines, la philosophie, le droit, la politique, les sciences, la physique notamment. Et il a particulièrement commenté les écrits de Voltaire et de Rousseau. Et au-delà de Cannes, au-delà de la Villa Éléonore, je dirais aussi que toute sa vie, il a œuvré pour les meilleures relations entre la France et l'Angleterre. Il partage littéralement sa vie entre Londres et Cannes, et il a tout fait pour que les relations soient meilleures entre les deux pays qui se sont combattus pendant de nombreuses décennies.
Il a demandé, ce qui paraît complètement fou, la nationalité française qui lui a été refusée par Crémieux en 1848. Il semblait autant français que britannique, vu son investissement pour la ville de Cannes. Et puis, il avait même des velléités politiques, puisqu'il voulait se présenter dans le Var.
Oui, effectivement. Alors, de là à dire qu'il était autant français que britannique, c'est peut-être un peu exagéré. D'autant qu'il est né, en plus, il est né en Écosse. Et il a grandi dans les Borders, donc la région frontalière entre l'Angleterre et l'Écosse. Donc il est avant tout sujet britannique. Mais effectivement, c'est le ministre Adolphe Crémieux qui l'a gentiment éconduit en disant que le citoyen Brougham en France ne pouvait demeurer lors de Brougham en Angleterre. Donc il lui a refusé la citoyenneté française.
Bon, en tout cas, grâce à vous, Gwenaël Guillon, on en sait un peu plus sur cet homme méconnu qui a participé à la notoriété de Cannes et à la naissance de Cannes. Il a découvert Cannes et il l'a fait vivre, et qui mérite donc qu'on se souvienne de lui bien au-delà de la Côte d'Azur, la French Riviera.
Exactement.
Merci, merci beaucoup, Gwenaëlle Guyon.
Mais je vous en prie, merci à vous.
Merci beaucoup. Merci.
Europe 1, historiquement vôtre.
Aujourd'hui, historiquement vôtre est donc consacré à ces personnages de l'histoire qui ont rêvé de la Riviera et qui ont fini par faire rêver la Riviera. Après les Murphy et Lord Henry Broome, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'une star hollywoodienne qui a fini par se lasser du lac de Côme.
Oui, Stéphane, il faut le comprendre. Le lac de Côme, c'est beau, mais c'est petit. Vous faites vite le tour, surtout en Riva. Oui. Oui, c'est pourquoi Georges Clounet a décidé d'investir dans le Var. Il va même faire son vin. Je suis sûr que vous avez toujours rêvé de boire du Clounet. Mmh. Ben, il va falloir attendre un petit peu, parce que pour l'instant, ça bloque chez le notaire, vous allez voir. En attendant, je vous raconte le destin assez incroyable de Georges Clounet.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui ont rêvé de la Riviera et qui ont fini par faire rêver la Riviera. Après les Murphy et Henry Broome, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'une star mondiale qui devrait bientôt poser ses valises dans le Var. Et alors, vous nous tenez en haleine, là, on attend le dénouement.
Exactement, c'est tout simplement l'un des hommes les plus célèbres au monde, Stéphane, qui pourrait venir bientôt humer les douces senteurs de la garrigue. Georges Clooney est aux portes de la Provence. Georges Clooney qui fait partie de ces rares acteurs hollywoodiens à avoir tout réussi, y compris conserver une image chic, malgré une participation à une grosse campagne publicitaire. Certains autour de cette table savent à quel point il s'agit là d'une prouesse.
Il y a le village, les plus beaux hôtels de plein air.
D'ailleurs, avant d'accepter de prêter son image à des annonceurs, Stéphane avait appelé Georges Clooney pour qu'il le conseille sur ce qu'il fallait accepter ou pas. Hélas, ça sonnait occupé. Du coup, Stéphane a dit « Ok, je le fais ». Le résultat, on le connaît.
Certaines princesses ont besoin d'être un peu beurrées pour être délicieuses.
Très loin de Nespresso, hein, en termes de chic. Le chic, l'élégance, c'est ce qui définit Georges Clooney, prenez-en de la graine. Un homme qui aime les cafés serrés, le cinéma, l'humanitaire, mais aussi l'immobilier. Déjà propriétaire d'une villa à Los Angeles, d'une hacienda au Mexique, d'un pied-à-terre à 10 millions au bord du lac de Côme et d'un manoir du 17e en Angleterre, Georges a estimé que ça ne suffisait pas. Hein, dans ce petit milieu des stars où tout le monde se tire la bourre à tout niveau, il vivait mal le fait d'avoir une propriété de moins que Stéphane Bern. « Ça la fout mal », disait-il souvent à son copain Brad Pitt. « Yes, fucking Bern », lui répondait Brad. Georges se met donc en quête d'une cinquième villa. Il est d'abord tenté par la Suisse et ses avantages, disons, bucoliques, mais le climat ne l'emballe pas. Alors, un soir qu'il consulte l'appli Se Loger, comme nous tous, il change ses paramètres. Il laisse évidemment 5 millions d'euros et plus, parce qu'en dessous, il sait qu'on ne trouve rien de correct.
Ah oui.
Oui. Mais il élargit sa recherche géographique jusqu'au Var. Et là, Georges est chanceux. Il trouve tout de suite la perle rare, une bicoque dans son jus aux prestations très correctes, 750 m² habitables, 170 hectares de jardin, 4 hectares de vignes et d'oliviers, un parc paysager, un lac privé, une piscine olympique et un parc de panneaux photovoltaïques. Le prix, 6,8 millions d'euros, une paille. Stéphane Plaza lui conseille de faire une offre au prix, banco, d'autant que la fête des voisins sera sympa. Brad Pitt, propriétaire du château de Miraval depuis 2011, est à seulement quelques kilomètres. C'est à Brignoles, dans le Var, au cœur des vignes et des oliviers, que nous posons nos valises aujourd'hui. Entre terre et mer, tradition et modernité, la chaleur d'un havre de paix et le côté sauvage d'une terre préservée. Bref, Clooney veut s'installer à Brignoles. C'est le genre de ville que tu peux pas ne pas prononcer avec l'accent du Sud. Brignoles, qui depuis l'annonce de l'arrivée potentielle de Georges est en ébullition. Enfin, pas tant les habitants que les journalistes, notamment ceux du JT de 13h de TF1, qui harcèlent littéralement les Brignolais et surtout, vous allez l'entendre, les Brignolaises, pour répondre à cette question extrêmement importante, surtout comparée aux événements anecdotiques de Gaza. Alors ça fait quoi de savoir que votre nouveau voisin s'appelle Georges Clooney ? Préparez-vous à une leçon de journalisme d'investigation rare, reportage qui commence par ces mots extrêmement modernes et pas du tout sexistes.
Mesdames, cette information est susceptible de vous intéresser, surtout si vous habitez dans le Var. Votre nouveau voisin s'appelle Georges Clooney.
Alors les poufs, excités ? Allez quoi ? Ah, vous n'allez pas nous faire croire qu'un beau gosse comme ça, vedette en plus, ça vous émoustille pas un peu ? Coquine va ! La journaliste se met alors en devoir d'interviewer chaque brignolaise non ménopausée qu'elle trouvera sur sa route. L'esthéticienne.
Georges Clooney qui vous invite à un café.
Ah ben je dis pas non,
faut pas rêver.
La coiffeuse dans le salon de laquelle forcément, si les clientes se pomponnent, c'est pour l'arrivée du beau Georges.
Alors ça y est, vous faites belle pour Georges.
Ah tout à fait, tout à fait.
Peut-être qu'on le croisera au salon, voilà, ça serait intéressant de le voir.
coiffer Georges.
Ouais, ça serait top, hein.
Oui, ça serait top, surtout que quand t'achètes une baraque à 6 briques, c'est vrai que t'as rarement les moyens d'avoir ton propre coiffeur à domicile et qu'il est donc très probable que chaque premier jeudi du mois, après avoir acheté sa fougasse à la boulangerie, Georges Clounet vienne se faire désépaissir dans un salon de coiffure baptisé certainement évolutif ou un truc comme ça, avant de se gratter un tac au tac au PMU. L'esthéticienne, la coiffeuse sont donc optimistes quant à la responsable du bureau de tabac. Elle est plus qu'optimiste, elle est proactive. Vous allez voir, si le Clounet ne vient pas à elle, c'est elle qui ira au Clounet.
Je vais aller me balader par là-bas, rien que pour voir ses beaux yeux.
Mais contrairement à ce que laisse entendre le reportage de TF1, les Brignolaises ne sont pas les seules à être excitées par l'arrivée de Georges. Certains Brignolais aussi, comme monsieur le maire, Didier Brémond, qui y voit déjà l'occasion de faire quadrupler le prix des places de parking en août. Je crois qu'on peut se servir de ces personnalités pour faire venir du tourisme chez nous, analyse-t-il finement avec un petit sourire en coin. Hélas, ne crions pas victoire trop tôt, je vous le disais, orchestra hit. Car rien n'est fait. L'acquisition du domaine du Canadel fait l'objet d'une discorde immobilière. Un autre client beaucoup moins beau et beaucoup moins connu que Georges Clounet a le toupet de prétendre avoir déjà acheté cette propriété en août dernier. Et malheureusement, ce qui est vrai en amour...
Vaut mieux être nombreux sur un bon coup que tout seul sur un mauvais.
Ne fonctionne pas en immobilier, Stéphane. Pas du tout. La procédure complexe pourrait prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Peut-être les Brignolais ne verront-ils jamais débarquer Georges Clounet. Mais savent-ils seulement qui il est vraiment? Car Georges Clounet est comme un Pauillac, Olivier. Il est meilleur vieux que jeune. Natif de Lexington aux États-Unis en 1961, il est le fils de Nina Bruce, ancienne reine de beauté, et de Nick Clooney, journaliste et présentateur télé. Sa tante, Rosemary, est une star du musical et selon certaines sources, son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère aurait été la demi-sœur de la mère d'Abraham Lincoln. Oula. Milieu catholique strict, préadolescence compliquée puisqu'en entrant au collège, George est frappé d'un syndrome nommé paralysie faciale afrigorée qui lui pétrifie la moitié du visage, un peu comme Orlando, mais que d'un côté, si vous voulez. 9 mois plus tard, la terrible paralysie s'estompera pour ne jamais revenir. Cela m'a permis d'apprendre à me moquer de moi-même, philosophe Georges. Georges qui a eu d'autres rêves que le cinéma, hein, le baseball qu'il pratique de manière intensive à partir de 17 ans. Hélas, il se fait recaler au moment de passer pro. Je le cite, « Je n'étais pas aussi nul que David Castello-Lopez, mais je n'étais pas assez bon pour la Ligue 1 », dira Georges, qui s'essaye alors au journalisme dans le sillage de Papounet. « J'ai commencé par faire des reportages et j'étais la pire combinaison. Un excès de confiance et de la médiocrité comme vous n'en avez jamais vu. Donc j'ai choisi une carrière qui ne requiert aucun talent, acteur. » Et ça a bien marché, je trouve. Oh, le petit salaud. Plutôt, même si devant la caméra, là aussi, Georges devra se montrer patient avant Urgence, Ocean's Eleven et Gravity, il y aura une quinzaine de pilotes de séries avortées et des navets sublimes comme Le Retour des Tomates Tueuses. Dans lequel George incarne avec brio un pizzaiolo abruti qui doit aider son oncle à sauver le monde. En 91, il touche au but, enfin il croit, il est pratiquement sûr de décrocher le rôle du beau gosse dans Thelma et Louise. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film culte. Et oui. Non, finalement c'est Brad Pitt qui l'emporte. Il faut attendre 1994 pour connaître enfin la gloire dans Urgence. Il y incarne un pédiatre sexy, il est élu homme le plus sexy du monde dans la foulée. Tremplin idéal vers le cinéma, Oh Brother, Une nuit en enfer, La ligne rouge, In the Air, Gravity, Money Monster. George ne choisit plus que les beaux scénarios. À quelques faux pas près, hein, souvenons-nous, Batman et Robin, que les critiques les plus tendres avaient qualifié de...
Un tas de merde sans intérêt.
C'est exactement non, ça, merde. Si vous avez vu Batman et Robin, là pour le coup Stéphane, c'est exactement ça. Les années 2000 sont les années Clooney. La saga Ocean's Eleven, Seriana, Gravity, décroche des Oscars, passe à la réalisation, redécroche des Oscars. Parmi ses meilleurs films, Good Night and Good Luck, Les Marches du Pouvoir, Monuments Men. Il pourrait prendre la grosse tête, devenir agaçant, surtout quand il annonce qu'il verse une large part des 40 millions d'euros de son cachet pour la pub Nespresso à des association pour sauver le Darfour.
Comme un connard.
Non, David, car Georges a su rester cool et drôle. En 2008, il piège même un journaliste italien qui l'interroge sur la chirurgie esthétique. Il lui dit « Je ne me suis pas fait lifter les paupières, mais j'ai fait une nouvelle opération très en vogue à Hollywood. On appelle ça le ball ironing, le repassage de boules. » Alors, le ball ironing est une pratique chirurgicale qui existe bien, ça concerne quelques happy fuse.
Absolument, j'en fais partie.
Sauf évidemment, Georges, lui, ne l'a jamais pratiqué. Hein, il voulait juste voir si le journaliste allait gober ça. Des journalistes dont le principal souci est évidemment de savoir avec qui couche Georges Clooney. La presse People a même compté, on lui connaît au moins 19 relations avérées avant son mariage avec Amal, dont une de 18 ans avec un porc nommé Max. C'est vrai, Georges a bien eu un porc domestique nommé donc Max, un cochon de compagnie qui aurait même dormi avec lui. On ne juge pas, chacun ses mœurs, mais personnellement, vivre avec un porc, déjà que je travaille avec quelqu'un qui imite le porc à longueur de journée, je ne pourrais pas. En 2013, heureusement, Georges trouve mieux qu'un porc pour partager sa vie à Amal Alamoudine, avocate talentueuse dont il tombe éperdument amoureux et qui deviendra sa femme. Quelques mois plus tard, elle lui donnera de beaux jumeaux. C'est tout ce beau monde qui va donc débarquer ou pas à Brignoles. Dans cette merveilleuse villa canadienne où Georges recevra ses amis du showbiz, dont certains, par leurs imitations, ressusciteront l'espace d'un instant la mémoire de feu Max le Cochon.
Ils l'ont mangé.
Vous allez... Bouffez-le, mais bouffez-le. J'ai pas compris cette histoire de cochon, mais en tout cas, c'est un drôle de type que ce Georges Clooney. Et à Brignoles, ils sont chauds bouillants.
Hein. Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour, mais sans pour autant quitter totalement cette Côte d'Azur que vous aimez tant, Mathieu.
Oui, on va rester encore un peu sur la Côte d'Azur pour la dernière demi-heure d'Historiquement Vôtre, où le passé, vous le savez, éclaire notre présent. On a loué nos transats pour 2 heures, alors autant les rentabiliser. Eux aussi sont sagement installés. Olivier, vous allez nous parler de la Tropézienne, puisque c'est la spéciale Côte d'Azur. Stéphane, vous allez nous décrypter une expression.
On est coincé la bulle.
Qu'on utilise ou qu'on utilisait en tout cas l'été.
Ça veut dire prendre du repos, si
prendre
vous voulez.
Prendre du repos,
sur la plage,
glander. Farniente, glander.
Voilà. Et buller.
Buller, tout simplement, c'est plus courant. Et les origines aujourd'hui d'un objet, c'est un objet qui va nous servir, puisqu'Olivier a apporté une bouteille.
Tout à fait.
C'est l'origine du tire-bouchon. Qui est le génie
qui a
inventé le tire-bouchon? Est-ce monsieur tire-bouchon? La réponse dans un instant.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui aime aussi dans cette dernière demi-heure remonter aux origines de notre quotidien. Et notre quotidien, c'est le tire-bouchon. Surtout quand les beaux jours arrivent, on organise un petit pique-nique. Il ne faut surtout pas l'oublier.
Tout à fait. C'est vrai que le tire-bouchon, on ne prend conscience que c'est super comme objet que quand on n'en a pas. Et du coup, parce que quand on n'a pas de tire-bouchon, cet objet si simple qu'une bouteille de vin paraît infiniment compliqué. Alors bien sûr, il y a des méthodes pour enlever les bouchons sans tire-bouchon, mais elles sont à peu près toutes soit bordéliques, soit risquées. Vous pouvez utiliser un briquet pour chauffer le goulot de la bouteille juste en dessous du bouchon. Et là, l'air chaud à l'intérieur, il va gonfler, ce qui va pousser le bouchon qui va finir par sortir. Mais bon, chauffer au briquet une bouteille de Pétrus, je parle sous votre contrôle, Olivier, c'est pas super recommandé. Il y a la technique de la chaussure aussi, qui consiste à mettre le cul de la bouteille dans une chaussure et à taper sur un mur avec. Ça fait un peu sortir le bouchon et on peut ouvrir, mais on risque de casser la bouteille. Ah ouais. Et bien sûr, secouer une bouteille de Pétrus, je parle sous votre contrôle, Olivier, c'est pas top. Et puis, on peut pousser le bouchon à l'intérieur de la bouteille. Mais ce bouchon risque de s'effriter et bien sûr avoir des miettes de bouchon dans son pétrus. Je parle sous votre contrôle, Olivier. C'est pas génial. Mais quand on a un tire-bouchon, eh ben tout va bien. Mais qui a eu cette idée géniale d'un outil pour enlever les bouchons, hein? Bon, alors déjà pendant longtemps, le tire-bouchon n'était pas très utile. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y avait pas de bouchon. Voilà. En tout cas, pas de bouchon comme aujourd'hui. Le vin était conservé dans des cruchons ou dans des amphores qu'on fermait soit avec de la toile huilée, soit avec des morceaux de bois. Tout ça était assez facile à enlever, peut-être avec un petit marteau. Mais petit à petit, au XVIIe siècle, le vin a commencé à être gardé dans des bouteilles en verre fermées avec des bouchons en liège. Et comme la nécessité est mère de l'invention, il a bien fallu trouver des façons de les enlever de la bouteille. Et d'après les collectionneurs de tire-bouchons, parce que ça existe,
il
y a des collectionneurs de tire-bouchons, eh bien les premiers tire-bouchons, c'était ce qu'on appelle des gun worms, des asticots à fusil, qui étaient en fait à l'origine faits pour enlever les balles coincées dans les canons de fusil, mais qui ressemblaient un peu à un tire-bouchon. Il y avait une sorte de tournicotis en métal comme ça, et ça marchait assez bien aussi pour enlever les bouchons de liège des bouteilles. Et puis au XVIIIe siècle, je parle toujours sous votre contrôle, Olivier, on a commencé à comprendre que faire vieillir le vin, c'était cool, ça pouvait dans certains cas le rendre meilleur, mais qu'il fallait pour cela que la bouteille soit plus hermétique. Et on a commencé à standardiser la taille des bouteilles avec des goulots plus étroits et des bouchons qui étaient très ajustés à la taille du goulot. Et il a fallu inventer des meilleurs tire-bouchons. Il y a eu plein d'avancées qui ont toutes eu pour but de limiter l'effort nécessaire à l'ouverture d'une bouteille. Le plus évident de ces systèmes, c'est celui du limonadier classique, des garçons de café, qui a une espèce de petit levier qui prend appui sur le goulot de la bouteille pour qu'on puisse enlever le bouchon. Même principe avec le zigzag, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est un tire-bouchon qui fonctionne sur un système d'accordéon. Donc vous rentrez le truc comme ça et ensuite ça se déplie comme ça. Exactement.
Oh, c'est incroyable, il y a un effet sonore ajusté sur votre bouchon.
Mais il y a du bruitage en direct. Mais
je pense qu'il n'a pas fait exprès, vu sa gueule, à mon avis, il a juste appuyé sur le bouton au moment.
Cette émission,
notre réalisateur.
Même principe enfin avec le tire-bouchon dit De Gaulle, vous savez, celui qui lève les bras, qui est quand même c'est quand même tellement brillant au niveau de l'ingénierie, ça. Et depuis quelques années, il n'y a même plus d'effort à faire, puisqu'il y a des tire-bouchons qui sont électriques. Et c'est un exemplaire de ces tire-bouchons électriques que j'ai amené ici. Alors, ils ont une caractéristique, ces tire-bouchons électriques, vous voyez, ils font un petit peu de bruit comme ça, c'est qu'ils émettent, quand on les actionne, une lumière bleue dégueulasse qui évoque une Clio caillot tuné dans les Hauts-de-France. Vous voyez, c'est vraiment moche. Et puis, bah alors, ça peut être pratique, mais il y a quand même ce petit truc, ouvrir une bouteille de Pétrus avec
non, ça.
Vous voyez, c'est-à-dire, on est dans la solennité. Oh là là, ça fait quatre générations qu'on a gardé la bouteille et. Vous voyez, ça va pas avec. Mais alors, du coup, de la même façon.
Vous me passez à votre émotion parce que je vais quand même en servir.
Tout à fait.
On va voir si ça marche déjà.
On va voir.
Donc, je me saisis d'une bouteille. Je vais dans un instant vous dire de quoi il s'agit parce qu'elle est en relation complète avec l'émission du jour. Et donc là.
Oh, comme ça marche bien.
Le bouchon, est légèrement cassé, mais il sort.
Donc, ça marche bien cette évolution.
Ça marche super bien. Et vous voyez qu'il y a une marche arrière sur le tire-bouchon qui fait qu'on peut ensuite extraire le bouchon sans effort non plus.
Ah oui.
On a vraiment beaucoup évolué.
Ça, c'est une révolution.
Et alors, en rapport avec notre émission, les amis, moi, je vous ai donc apporté une bouteille de vin rouge, qui d'abord est un vin de la Méditerranée, puisqu'on était évidemment
sur la Côte d'Azur aujourd'hui.
Mais plus fort encore, donc il s'agit du Château Malherbe. Et Château Malherbe, figurez-vous que c'était l'ancienne ferme du fort de Brégançon.
C'est les vignes de Brégançon.
Voilà.
C'est concept store ici.
Les astres qui s'alignent tous
rapidement.
En même temps.
Ben évidemment qu'on va le goûter.
Avec modération. Bravo en tout cas pour cette chronique.
Merci le doux bruit. On retrouve tout évidemment sur les applis et puis sur europe1.fr évidemment.
On peut voir en vidéo ce qui se passe et il s'en passe des choses. Olivier Pouls, une fois qu'il aura servi le vin, passera à sa chronique. Tout ça avec modération comme d'habitude. Aujourd'hui, Olivier, vous nous parlez de la tarte tropézienne. On reste évidemment sur la Côte d'Azur.
Bien sûr.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, les pieds dans l'eau aujourd'hui, puisque nous sommes sur la Côte d'Azur. C'était une émission spéciale dédiée à cette belle région de France, la French Riviera. Et on y reste avec vous, Olivier, gastronomiquement parlant, puisque vous nous parlez de la tarte. La tarte tropézienne, bien sûr.
Oui, c'est le symbole. Alors, qui a inventé cette tarte tropézienne? Eh bien, on le sait très précisément. Il s'appelle Alexandre Mika. Il était pâtissier d'origine polonaise, arrivé en France en 1945, qui s'installe sur la Côte d'Azur. Il ouvre une première petite pâtisserie et parmi les petites spécialités qu'il décide de proposer, une tarte dont la recette lui vient de sa grand-mère et qui est une tarte qui combine une pâte briochée avec une crème qui peut faire penser un petit peu à une crème pâtissière, mais un petit peu plus léger. Évidemment, succès complet de la part des clients du coin, des tropéziens qui adorent cette tarte. Ça commence à s'ébruiter un petit peu. Et puis en 1955, qu'est-ce qui se passe à Saint-Tropez?
Il y a le tournage d'un film.
Exactement.
Et Dieu crée la femme.
Voilà, de Roger Vadim et son équipe qui s'installe à Saint-Tropez, qui tourne. Évidemment, l'équipe va souvent chercher à manger des petites pâtisseries chez l'ami Mika. Et Brigitte Bardot découvre cette tarte. Elle en tombe éperdument folle, amoureuse. Et elle discute évidemment avec Alexandre Mika. Elle lui dit « Mais tu devrais l'appeler la tarte de Saint-Tropez, la tropézienne ». Et c'est, paraît-il, la légende, dit-on en tout cas, c'est elle qui lui aurait soufflé le nom de la tropézienne. Tropézienne qu'on trouve maintenant un peu partout en France, puisque
pas toujours très bien réussi.
Non, parce que c'est en fait, il y a un secret, je pense, dans l'élaboration de cette crème qui doit être très légère et très onctueuse. Alors, je vais essayer de vous en proposer une recette qui, bien réalisée, je vous garantis, vous ne décevra pas quand même. Mais peut-être qu'il n'aura pas 100% le
c'est
goût la tropézienne,
la tropézienne belge.
Parce qu'il paraît qu'il y a un secret qu'ils ne veulent pas livrer. Alors, ce qu'il vous faut, c'est d'abord faire une brioche. Alors, pour la brioche, c'est farine, sucre, levure, des œufs, du lait et un petit peu de beurre. Vous laissez surtout bien monter la brioche pendant une demi-journée et vous réalisez une brioche ronde que vous allez sucrer et ensuite cuire dans un four pendant une vingtaine de minutes à 180 degrés. Cette brioche, vous la laissez de côté. Et vous allez à côté préparer la crème. Alors, la crème, c'est des jaunes d'œufs avec du sucre, du lait infusé à la vanille qu'on verse dessus, on épaissit bien le tout, on rajoute un petit peu de maïzena ou un petit peu de farine dans la préparation. Et puis, on va alléger en quelque sorte cette crème en lui rajoutant de la crème fouettée mélangée à du beurre. Ça l'allège, en tout cas, ça va lui
la
donner
texture,
un côté
quoi.
Plus aérien, pas en termes de calories.
Non, les calories sont bien là.
Et voilà. Et puis, il va falloir farcir votre brioche avec cette crème. Et voilà l'idée de ce qu'est une tropézienne.
Mais il n'y a pas des grains de sucre par-dessus?
Si, et ça, ces petits grains de sucre, vous les mettez sur la brioche avant de la cuire. La brioche que vous allez dorer au pinceau avec un petit jaune d'œuf.
Heureusement que David est là, sinon il manquait la moitié de la recette.
Non, parce que je pense que j'ai dit qu'il fallait
sucrer. Mais c'est vrai que
secret. Soyons précis, vous avez raison.
Non,
vous avez raison, il faut rajouter.
Parce qu'il y a un peu de sucre dans la pâte aussi, de la brioche.
Il y a aussi un petit peu de sucre dans la pâte. La pâte elle-même, évidemment.
Ça est strictement déconseillé.
Voilà, et en attendant, écoutez, on peut terminer ce vin rouge de Provence.
Parce que vous nous avez apporté un vin rouge qui est en lien avec l'émission, puisqu'on parlait du fort de Brégançon. Ce sont les vignes à côté du fort de Brégançon.
Bien sûr, mais d'abord, on va se coincer la bulle.
Ah, j'ai tellement envie de me coincer la bulle, Stéphane. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça m'a l'air sympathique.
On attend les interstices dans l'émission pour pouvoir boire le vin. Ouais, il n'arrive pas.
Lancez la pub.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, consacré aujourd'hui à la Côte d'Azur et ceux qui l'ont découverte et qui l'ont fait, qui l'ont rêvé. On en est au mot de la fin, Stéphane. Mmh. C'est l'histoire d'une expression avec vous et on reste quelque part un petit peu dans le sud, en tout cas dans le Farniente.
Oui, j'aimerais d'abord citer un grand poète du XXe siècle, un homme que j'aime beaucoup, Étienne Dao. Week-end à Rome, afin de coincer la bulle dans ta bulle, de poser mon cœur bancal dans ton bocal, ton aquarium. Tout cela pour l'expression coincer la bulle.
Alors j'imagine qu'il doit y avoir un lien assez évident avec buller, c'est se reposer, cela couler douce. Cela couler douce, d'ailleurs, ça pourra faire l'objet d'une autre chronique, Stéphane. J'espère que vous bossez dessus.
Oui, et parfois j'ai l'impression que vous me prenez pour un serveur. Vous commandez un menu japonais. Revenons la formule coincer la bulle. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'expression est d'origine militaire. Au milieu du XXe siècle, à l'école de Saint-Cyr, quand on sortait son mortier en exercice ou sur un champ de bataille, il fallait qu'il soit bien calé, quelques millimètres d'erreur et le tir partait en sucette. Pour que tout se passe bien, il fallait bien régler l'engin grâce à une sorte de plaque qui contenait un niveau dans lequel il y avait une bulle qui devait se situer entre deux repères. Quand la bulle était coincée entre ces deux mesures, c'est que le mortier était bien droit. Le militaire n'avait plus qu'à attendre les ordres pour faire feu. Mais parfois, les ordres tardaient à venir. Et ils arrivaient aussi qu'ils ne viennent jamais. Le tireur devait tout de même rester prêt, allongé, à ne rien faire. C'était pour certains une occasion bien méritée de se reposer, de faire un roupillon, bref, de se coincer la bulle. Il y a beaucoup d'autres expressions dans ce sens dans de nombreux pays. En Angleterre, c'est « to rest in one's oars ». Comprenez, se reposer sur ses deux avirons. Mieux vaut ne pas être à contre-courant dans ce cas-là. En Égypte, on dit « azazelleb », c'est grignoter des pépins. C'est vrai que ça peut être agréable, mais ça prend du temps. Au Portugal, je parle sous le contrôle de David Cachelopes, c'est « estar de paparauar », être le jabot en l'air.
Paparauar.
Oui, ça peut rappeler des souvenirs, être le jabot en l'air. Allez, n'oubliez pas, de temps en temps, il faut se reposer, de ne rien faire. C'est beau, c'est du Jean Cocteau.
Et pour se reposer, de ne rien faire, vous pouvez toujours compter sur moi, Stéphane. Historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui. Une spéciale consacrée donc aux amoureux de la Côte d'Azur. Et je crois que cette spéciale nous a décidé dans l'équipe à réserver dans le Sud-Est cet été.
Il y a une Porsche ici.
Au bout du truc pas neuf, Stéphane, on peut y aller en train aussi, on verra. En tout cas, lequel de nos personnages du jour vous a le plus séduit? Est-ce que c'est le couple Murphy qui a investi en premier la Riviera? Moi, c'est mon coup de cœur du jour. Je ne les connaissais pas. Je ne savais pas que c'était à eux qu'on devait l'éclosion de la Côte d'Azur telle qu'on la connaît. Lord Broom qui a découvert Cannes, cette ville que vous adorez, je sais, Stéphane, ou George Clooney.
Non, mais écoutez, je pense que les Murphy, ça m'a touché leur histoire.
La belle époque, les années folles, et la Côte d'Azur, les petites criques où il n'y avait encore personne, ça fait rêver.
On a raté un truc.
Oui, on a raté un truc. Stéphane, vous disposez de facultés divinatoires assez puissantes. Est-ce que vous êtes capable de nous dire ce qui va se passer demain dans cette émission?
Évidemment, demain, on réunit trois personnages qui ont allumé le feu.
Johnny Hallyday.
Si vous voulez, mais avant, je vous raconterai deux autres allumeurs de feu. L'un des tout premiers, l'homme de Cro-Mignon. De Cro-Magnon.
L'homme de Cro-Mignon, alors ça c'est oui. Autre chose. C'est,
ben,
c'est...
Je trouve que l'homme de Cro-Magnon est assez mignon. Et un homme qui a enflammé les Tuileries pendant la Commune de Paris. Et c'est vrai qu'on a célébré ou commémoré, selon où on se place, les 150 ans de la Commune de Paris. C'est Jules Bergeret.
Et donc Johnny Hallyday, j'ai hâte. Et d'autant plus que vu la puissance vocale que vous aviez manifestée sur Françoise Hardy.
Dans les yeux, dans les yeux.
J'ai hâte d'entendre votre version d'Allumer le feu, Stéphane. À demain, les amis.